Vous êtes sur RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Bonjour à tous et bienvenue donc dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et à la une, l'hommage parisien à Bernard Tapie avant Marseille demain. Ce sondage qui pour la première fois donne Éric Zemmour au deuxième tour de la présidentielle. Et puis Anne Hidalgo, souvent présentée comme l'anti-voiture, elle propose de réduire les taxes sur le carburant. C'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il baisser rapidement les taxes sur le carburant? Vous dites oui à 83%. Bonjour Pascal.
Bonjour Amandine.
Juste après le journal, on échange, on décrypte, on débat, comme chaque jour, deux sujets.
Deux sujets, on reviendra sur ce sondage Harris Interactive et la nette progression d'Éric Zemmour. Quelle est la méthode, la marge d'erreur des sondages? Et puis à 12h50, Marseille, cette violence qui a franchi dimanche un nouveau cap, des policiers visés à l'arme de guerre. Que faire? Jusqu'où ira cette violence? Nous serons avec Frédéric Ploquin, qui sera notre invité.
La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Belle amélioration donc sur l'ensemble du pays, ça fait plaisir.
Eh oui, des éclaircies gagnent les trois quarts du pays cet après-midi, alors ça reste pluvieux le long des frontières du nord et de l'est, à l'est où les pluies sont plus éparses, et puis du très beau temps près de la Méditerranée, mais toujours beaucoup de vent comme en Corse. Et ça se couvre juste sur la pointe bretonne. Les températures, elles sont un peu fraîches sur le nord-est et proches des normales ailleurs, de 14 à 18 degrés au nord et de 17 à 23 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est là qu'avait lieu ce matin une première messe en hommage à Bernard Tapie. Bonjour Nerissa Emani.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL, la cérémonie vient de s'achever.
Oui, à l'instant, les proches de Bernard Tapie sortent peu à peu de l'église. On a vu entrer Michel Drucker, Nicolas Sarkozy ou encore Brigitte Macron. Des centaines d'anonymes attendent, eux, face à l'église, la sortie du cercueil de Bernard Tapie. Parmi eux, de nombreux supporters de l'Olympique de Marseille qui tendent leurs écharpes bleues et blanches.
Je suis marseillaise, donc je vis à Paris et c'était pour moi indispensable que de venir aujourd'hui dire adieu à notre boss. Il ne sera jamais dans nos cœurs. Et même demain, mes enfants le connaîtront et connaîtront son histoire, c'est normal.
Tout ce qui touchait, il le transformait en or presque. À Marseille, vous avez la bonne mère et vous avez Tapie. Il a ramené la seule étoile de France dans sa ville de cœur, à Marseille.
Un battant, un homme exceptionnel. Les adjectifs ne manquent pas, mais pour cette Parisienne, c'est l'ambition de Bernard Tapie qui l'a toujours inspirée.
Le fait que Bernard Tapie n'était pas de la haute bourgeoisie, mais qu'il avait réussi, donc on se disait ben pourquoi pas nous. C'était quelqu'un qui était exceptionnel, il était différent des autres hommes, je crois.
Bernard Tapie l'a converti à l'OM, m'a-t-elle dit, et c'est pourquoi elle se rendra au stade Vélodrome demain pour un nouvel hommage au boss.
Nerissa Emani en direct de l'église Saint-Germain-des-Prés pour RTL. Demain, effectivement, hommage à Marseille, chapelle ardente au stade Vélodrome avant les obsèques vendredi. Et Pascal, vous étiez tout à l'heure à cette messe à Paris. On y reviendra bien sûr avec les auditeurs dès 13h.
Notamment la prise de parole de Jean-Louis Borloo et de Chantal Latsou qui avaient joué avec Bernard Tapie. On en vient à ce sondage qui, pour la première fois, place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle. Bonjour.
Bonjour William Galibert.
Bonjour.
À 6 mois du premier tour, donc le polémiste, toujours pas candidat, faut-il le rappeler, devance désormais Marine Le Pen. C'est un sondage Harris pour le magazine Challenge.
Oui, 17% pour Éric Zemmour et 17% désormais, donc c'est mieux que Marine Le Pen qui chute à 15%. Les dynamiques sont totalement inverses puisque dans un sondage du même institut, il y a une semaine à peine, Éric Zemmour était à 13% et Marine Le Pen encore à 16%. On sait que l'électorat classique du Rassemblement National, c'est l'une des cibles privilégiées d'Éric Zemmour, vrai faux candidat, mais qui passe son temps à répéter que Marine Le Pen n'arrivera jamais à gagner cette élection. Il faut croire que la formule est en train de faire son effet dans les esprits des électeurs traditionnels du RN. Éric Zemmour, deuxième, quel que soit aussi le candidat de la droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier. Mais Éric Zemmour, encore loin d'Emmanuel Macron, testé à 24%. Le président qui serait réélu 55-45 si un deuxième tour l'opposait aux polémistes. On va rappeler qu'un sondage, ce n'est qu'une photographie de l'opinion à un instant précis. Rappelez aussi qu'il y a une marge d'erreur, environ 2 points pour Éric Zemmour, qui est affiché à 17%, mais dont le score pourrait aussi bien être de 15 ou de 19, donc, d'après l'Institut Harris, qui a interrogé en ligne 1 millier de personnes.
William Galibert du service politique d'RTL. Notez qu'on reviendra dès 12h40 sur ce sondage, cette enquête, avec Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut de sondage Harris interactive. À gauche, c'est Anne Hidalgo qui crée ce matin la surprise. La candidate socialiste propose de baisser les taxes sur les carburants, elle qu'on croyait, que certains croyaient en tout cas anti-voiture. Sur RTL, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dénonce une proposition incohérente, mais n'exclut pas de devoir passer par là.
Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo qui à la fois veut accélérer la transition écologique et qui propose en gros de subventionner les énergies fossiles. Mais on n'est pas une incohérence près dans cette campagne électorale. Notre cap doit rester celui de la transition écologique. Mais rien n'est inenvisageable. Il faut laisser toutes les portes ouvertes et réagir à chaque fois lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il faut protéger temporairement le pouvoir d'achat des Français.
Xavier Bertrand,
nous le faisons sur le gaz, nous le faisons sur l'électricité. S'il faut le faire à un moment donné sur les carburants parce qu'ils continuent à s'envoler, nous sommes prêts à le faire.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL.
Et Anne Hidalgo qui sera ce soir l'invité de RTL à partir de 18h. Face à elle, le défenseur autoproclamé de la voiture, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Faut-il baisser rapidement les taxes sur le carburant? C'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Et vous dites oui à 83%. On y reviendra bien sûr aussi dans les auditeurs. On la parole 32-10 pour réagir. Et puis toujours à propos de cette présidentielle, sachez que Christian Estrosi votera lui Emmanuel Macron. S'il est candidat, je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté, déclare le maire de Nice qui estime que l'actuel président est celui, je cite, qui incarne le mieux la filiation de la droite et du centre. Fin de citation. Dans l'actualité également, cette première apparition publique du pape François après la publication hier du rapport Sauvé, rapport sur les abus sexuels au sein de l'Église de France. Le souverain pontife évoque sa tristesse, sa douleur, mais aussi sa honte, un mot qu'il a d'ailleurs répété plusieurs fois.
Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour le traumatisme qu'elles ont subi et ma honte. Notre honte pour la trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations. Et je les assure de ma prière. C'est le moment de la honte. J'encourage les évêques et supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas.
Le pape François ce matin, des propos recueillis pour RTL par Olivier Bonnel. Au procès des attentats de Paris, parole à partir d'aujourd'hui aux victimes du Bataclan. Parmi elles, Sophie, 38 ans. Ce soir-là, elle a reçu plusieurs balles, dont une qui est restée dans son bassin de longs mois.
C'est important parce que moi j'ai vécu cette soirée-là, j'en ai parlé à mes proches, mais c'est important aussi que ce soit inscrit quelque part, pouvoir les confronter à ce qu'ils m'ont fait, d'être allongée dans la fosse d'une salle de concert avec l'odeur du sang et de la poudre. Il y a un garçon qui est mort juste à côté de nous et qu'on a essayé de mettre un peu sur nous pour nous protéger au cas où. Puis tout à coup je lève la tête et je vois sur ma jambe, c'est juste un monticule de chair. Et puis c'est l'angoisse de se dire, est-ce que je vais perdre ma jambe, est-ce que je vais pas la perdre. La douleur liée à la balle, elle a duré pendant 18 mois. Quand je suis fatiguée, j'ai mon bassin qui se bloque. Quand je suis vraiment très fatiguée, je commence à boiter, j'ai ma jambe qui a du mal. Je ne peux pas avoir d'enfant naturellement, j'ai eu un bébé, mais j'ai dû passer par fécondation in vitro, ce qui a été une épreuve supplémentaire. Ma fille qui est née en octobre 2019. Ma fille, elle m'aide à me lever tous les matins, elle m'aide à être forte tous les matins, donc c'est mon bébé miracle. C'est vrai que voilà, elle parle maintenant et c'est vrai que quand elle voit ma jambe, elle me dit bobo maman. Donc je commence à me demander comment lui expliquer ça, mettre des mots là-dessus pour qu'elle sache. Donc je suis fière d'être debout en fait encore. Ils ont essayé de nous mettre à terre et en fin de compte, on s'est relevé plus fort. Donc quelque part, c'est qu'ils ont échoué.
La lente et difficile reconstruction de Sophie, 38 ans, grièvement blessée, vous l'avez entendu au Bataclan, un témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnand.
En Normandie, cette histoire à peine croyable.
Des dames de cantine qui volent le repas des enfants. Oui, trois employés municipaux ont été suspendus. Ça se passe à Goderville. Écoutez, Frédéric Callière, c'est le maire de la commune.
Totalement inqualifiable. Un exemple, au lieu d'avoir un hamburger entier, c'était un demi-hamburger. Lorsque vous commandez des cordons bleus, on les émiettait pour faire un saladier plus gros, mais de l'autre côté, on gardait les cordons bleus pour rentrer à la maison. Donc, ce n'était pas des restes. C'était vraiment les portions qui étaient vraiment prêtes pour les enfants. Donc, je vous dis, 50 élèves à la maternelle, 50 hamburgers, on n'en donnait que 25 en coupant en deux, un demi-hamburger pour les enfants et pas un entier. C'est ça qui est choquant. Il y a eu sanctions, donc elles ont été condamnées à une amende. Elles sont suspendues.
Frédéric Carlière, le maire de Goderville, au micro RTL de Frédéric Veil. Et puis c'est l'événement aujourd'hui au cinéma, la sortie du dernier James Bond. Mourir peut attendre des mois et des mois que les fans patientaient. Alors conquis ou pas, Valentin Boisset, vous vous êtes rendu à la première séance ce matin dans le quartier des Halles à Paris.
Oui, la file d'attente s'est vite remplie devant les grilles fermées ce matin du cinéma. Des fans qui observent aussi l'affiche qui s'installe, un James Bond taille réelle qui pointe son arme vers la billetterie. Le film était attendu depuis avril 2020.
C'est quand même le signe qu'on attendait depuis un an et demi. Hein.
C'est la première fois que je fais le 9h des Halles. C'est un petit peu un événement.
Comme ça, je peux profiter du dernier James Bond avec Daniel Craig.
Oui, car c'est aussi ça l'événement, la dernière de l'acteur britannique Daniel Craig. Alors certains en sont déjà ce matin à leur deuxième séance après les avant-premières d'hier soir, l'heure du premier bilan.
Une BO, incroyable.
Il y a de l'action, des gadgets et tout ça.
Ce qui n'est pas habituel, il y a une intrigue un peu sentimentale. Comme en plus, c'est le dernier apparition de Daniel Craig, ils en rajoutent un petit peu.
Ne dévoilons pas trop l'intrigue quand même. Pour Patrice, une déception, 2h43, c'est trop long. À la fin, il reste des questions chez certains.
J'attends surtout de savoir qui sera le prochain James Bond.
Et pour ça, il faudra attendre et peut-être plusieurs années.
Reportage signé Valentin Boisset pour RTL. Vous allez aller le voir, ce James Bond, Pascal ?
Je ne sais pas. Pourquoi pas ?
Vous n'êtes pas fan ?
Mais je crois que le dernier James Bond que j'ai vu, c'est avec Roger Moore. Donc effectivement,
ça date.
Je me demande si... Faut que je redevienne à la page. Bon, en revanche, j'ai l'impression que c'est la troisième ou quatrième fois que nous allons consacrer notre débat à Éric Zemmour dans ce 12h30, 13h. C'est dire l'importance peut-être de ce phénomène qui surprend tout le monde. On va revenir donc sur ce sondage Harris Interactive et cette nette progression. Quelle est la méthode d'un sondage? On est quand même un peu chaudé avec ces sondages. Donc on va poser la question à Jean-Daniel Lévy, qui est directeur de l'Institut Harris. À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Tandis qu'Éric Zemmour obtiendrait 13% à égalité avec le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Un nouveau sondage publié hier pour Le Parisien donne, si les candidats, Éric Zemmour en troisième position au premier tour de la présidentielle avec 15% des suffrages.
Toujours pas candidat, pas officiellement, mais sa cote monte pour la première fois. Un sondage donne donc Éric Zemmour qualifié pour le second tour à 17% d'intention de vote au premier derrière Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Daniel Lévy.
Bonjour.
Vous êtes le directeur délégué de l'Institut Harris Interactive qui a réalisé justement cette enquête pour le magazine Challenge. Merci d'être en direct avec nous. On est aussi avec Benjamin Sportouf, chef du service politique d'RTL. Bonjour. On le disait, Éric Zemmour, donc Jean-Daniel, dépasse désormais Marine Le Pen de 2 points. Tous les candidats LR, quel que soit le scénario. Et ce sondage suscite déjà beaucoup, beaucoup de réactions. Que répondez-vous aux critiques, à ceux qui disent que ce sont justement les sondages qui font monter Éric Zemmour ?
Oui, enfin, on peut, comme souvent, dire que les sondages font monter Éric Zemmour. On peut également regarder l'exposition objective qui a été celle d'Éric Zemmour au cours de ce dernier mois, voire un peu plus. Il a été présent matin, midi et soir dans les médias. Et qui plus est, quand vous regardez, à chaque fois qu'il y a eu un thème qui a porté directement ou indirectement autour d'Éric Zemmour, une réaction en chaîne de la part des autres responsables politiques. Ça a pu être l'interrogation pour savoir est-ce qu'il fallait qu'il soit comptabilisé dans le temps d'antenne de personnalités politiques en candidat à l'élection présidentielle. Ça peut être le propos sur les prénoms, le propos sur les femmes, le propos sur Pétain. Et de manière perpétuelle, vous regardez au cours de ce dernier mois, l'ensemble du débat présidentiel a tourné autour d'Éric Zemmour ou des propos d'Éric Zemmour.
Alors, je dirais pas que vous faites monter Éric Zemmour, mais il y a quand même une petite perversité des sondages. C'est-à-dire que, comme on connaît les chiffres, le vote utile, entre guillemets, peut jouer. C'est-à-dire que l'électeur, il sait pour qui voter et peut-être pour qui il ne faut pas voter parce que son vote ne servirait plus à rien.
Il y a plus modèle. Et comme parfois on peut dire que la démocratie est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, peut-être qu'on peut dire que les sondages constituent un outil imparfait avec effectivement des implications sur le vote, mais que si on laissait courir uniquement les rumeurs, on tronquerait également la sensibilité ou le niveau d'information de la part des Français. Ce qui est certain, c'est que quand on se dit qu'on utilise les sondages pour adopter son comportement électoral, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment certain de la probité ou en tout cas de la clairvoyance de la part des autres candidats à l'élection présidentielle. Ce qu'on voit à travers un ensemble d'enquêtes, c'est quand on nous dit, franchement, je vais voter en tenant compte de ce que disent les sondages, c'est parce qu'on hésite entre 2, 3, 4 candidats, mais qu'il n'y en a aucun qui nous convainc tout à fait.
Jean-Daniel Lévy, une question tout de même. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas difficile aujourd'hui de réellement évaluer Éric Zemmour ? Quand je vois que vos collègues d'Opinion Way, un autre institut de sondage, pour les Échos, donnait la semaine dernière, samedi, Éric Zemmour à 10%, comment vous expliquez cette différence, cet écart entre votre sondage et celui-ci ? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement compliqué de l'évaluer, étant donné en plus que 52% des Français ne s'intéressent pas encore à la présidentielle ?
Oui, vous pouvez également indiquer qu'il y a un autre sondage qui a mesuré Éric Zemmour à 15% le week-end dernier. Donc il y a effectivement une évaluation qui n'est pas la même. D'ailleurs, qui ne va pas toucher, quand vous regardez, uniquement Éric Zemmour.
Mais comment on l'explique ? Pardonnez-moi Jean-Daniel Lévy, mais pour nos auditeurs, ils n'y comprennent plus rien du coup, et nous non plus d'ailleurs. C'est quand même des grosses différences.
Il y a aujourd'hui probablement en fait des méthodes qui sont pas exactement la même selon les différents instituts. Ce que je sais concernant Harris Interactive, c'est qu'on a toujours conservé la même méthode. C'est un baromètre que nous avons déployé depuis avril dernier avec Challenge, et que nous avons le même type d'échantillon, le même type de personnes qui sont interrogées, le même type de questions qui sont posées et l'exploitation de cela. On est dans un moment où on est assez loin de l'élection présidentielle. On est dans un moment où on va pas non plus tester tous exactement les mêmes candidats, et ce qui peut avoir une incidence sur l'analyse que l'on peut faire de ce scrutin. En général, vers le mois de janvier et février, on a une plus grande homogénéisation des enquêtes qui sont réalisées par les instituts.
Donc c'est pas un pronostic là.
Ah non, c'est pas un pronostic du tout.
C'est une photographie aujourd'hui, mais ça fait un moment sans doute que vous faites des sondages. C'est une déflagration. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un venir de la société civile, journaliste, aucune crédibilité pour diriger un pays, aucune crédibilité pour avoir un mandat politique. Être deuxième sur une élection présidentielle et qualifié pour le second tour, vous nous auriez dit ça il y a un mois, personne en France n'aurait imaginé cela.
Ça, c'est absolument certain. On avait déjà eu un peu ce phénomène d'une autre, toute autre...
Surtout qu'il n'est pas candidat.
Surtout qu'il n'est pas candidat, officiellement. Il s'est produit pour partir avec Emmanuel Macron. On s'est dit, c'est pas possible, il n'a pas de parti, et il n'a pas d'histoire, il n'a pas d'ancrage électoral, ça ne peut pas marcher. Il a fini par gagner l'élection présidentielle. Donc je ne suis évidemment pas en train de dire que Éric Zemmour va gagner la prochaine élection présidentielle.
Ce que je veux dire, c'est que... Mais vous ne l'excluez pas.
Ce que je veux dire, c'est qu'on peut rien exclure à l'heure actuelle. Ce que je peux dire, c'est qu'on a la perception d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle qui est constant, qui a toujours dit la même chose et qui plus est parle de la France et qui se nourrit très nettement de la difficulté que rencontre Marine Le Pen, qu'on avait déjà identifiée avec les dernières élections régionales et départementales, et qui là aujourd'hui a un phénomène de vase quasiment communicant entre l'électorat de Marine Le Pen et l'électorat d'Éric Zemmour.
Très franchement, Jean-Daniel Lévy, la marge d'erreur est de 2 points. Vous auriez pu les mettre à égalité aujourd'hui, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous auriez pu.
Le mettre en tant que tel, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce que
mais qu'est-ce que vous voulez dire, Benjamin ?
Non, mais vous auriez...
Parce que vous voulez dire que Harris valorise son sondage en mettant numéro 2 ?
Eh bien, très franchement, j'en ai l'avis. On sait très bien que c'est ce qu'on appelle des résultats consolidés, que la marge d'erreur, elle est là, qu'il y a une forme d'appréciation aussi du sondeur. Est-ce que vous auriez pu les mettre à égalité ?
Vous êtes un bon vendeur, c'est ce que vous dit M. Sportouche.
Et qu'il y a une concurrence entre sondeurs, aujourd'hui ?
Il y a évidemment une concurrence entre sondeurs. Jouer, entre guillemets, avec Éric Zemmour, jouer avec ce que pourrait être la démocratie en disant qu'on fait un coup en mettant en avant Éric Zemmour, ça ne correspond pas du tout à la philosophie d'Harris Interactive. La méthode, et c'est pour ça, Benjamin Sportouche, que je ne comprends pas tout à fait votre question, la méthode, c'est exactement la même que celle à laquelle on a toujours recouru depuis 6 mois. On a adopté la même approche. C'est une approche qui est définie avec la commission des sondages et que nous avons proposé à la commission des sondages qui contrôle notre travail. Il aurait été, à mes yeux, malhonnête aux yeux des personnes qui écoutent et qui lisent nos enquêtes, voire des journalistes et des observateurs, d'indiquer que nous avions une mesure qui donnait Éric Zemmour et Marine Le Pen au même niveau. Aucun élément dans cette enquête ne nous permet de le dire.
Bon, monsieur Lévy, vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là quand il est 12h50 et qu'on a encore envie de vous poser des questions. On vous dit de rester avec nous, avec les auditeurs. Parce que les auditeurs vont pouvoir vous interroger. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas bonne presse, disons-le, les sondeurs.
Mais les médias, pas toujours non plus, pour sa défense.
Exactement,
non,
mais attendez, il faut remettre on est dans le même panier. Donc ça sera parfait, puisque les gens ne nous croient pas toujours. Donc vous pouvez rester avec nous ou pas ?
Jusqu'à 13h, si ça ne vous pose pas de problème.
Après, non, entre 13h et 13h15, ça m'arrangerait.
Malheureusement, ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, j'avais déjà prévu, j'avais déjà un engagement à 13h.
Bon, bah, c'était un sondage que je faisais auprès de vous, malheureusement. je n'ai pas réussi à vous convaincre. Merci en tout cas de votre franchise et c'est intéressant ces sondages bien sûr. Il est 12h52, on va parler de la violence à Marseille, ce qui s'y passe est quand même effrayant, des policiers visés à l'arme de guerre. Que faut-il faire? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
J'ai entendu un coup de feu. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu un gros. J'ai reculé de la fenêtre. Les coups de feu. Et il y a 15 jours de ça, pareil, là au-dessus, deux bandes. Ils étaient cagoulés, ils se tiraient entre eux. Vous vous rendez compte, vous prenez des balles perdues comme ça.
C'est toujours peur d'une balle perdue, quelque chose comme ça. Qui se tue entre eux, ça je m'en fous complètement.
Manuel et Pascal vivent tous deux depuis des années dans le quartier de Les Bricardes à Marseille, quartier où la violence est encore montée d'un cran dimanche. Des policiers de la BAC victimes de tirs d'armes de guerre. Alors que faire? Jusqu'où peut aller cette violence? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Frédéric Ploquin. Merci Bonjour. D'être en direct avec nous. Vous êtes, je le rappelle, journaliste spécialisé dans ces questions de police, grand banditisme. Avant de vous entendre, je voudrais que vous écoutiez la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Elle était ce matin l'invitée d'RTL, Frédéric Camilleri, ultra déterminée, même si elle redoute le pire.
Ce n'est un scoop pour personne. Nous irons tous les jours désormais à la Bricarde pour faire ces opérations, pour aller chercher les trafiquants et continuer à pilonner les points de deal.
Et malgré la crainte, Frédéric Camilleri, d'avoir un policier mort?
Bien sûr. J'ai cette crainte à tout moment d'avoir la responsabilité d'un mort, d'un blessé grave parmi les personnels sous mon autorité. Je leur dis qu'aucune intervention ne mérite de ne pas revenir le soir, mais ils ont une détermination sans faille et ils savent qu'ils sont un des derniers remparts contre ces trafiquants. Moi, je ne me résoudrai jamais à laisser les centaines de milliers d'habitants qui sont pris en otage par ces trafiquants seuls.
Frédéric Ploquin, un mort dans les rangs de la police, c'est ce qui va finir par arriver?
Bah écoutez, j'ai pas du tout envie de jouer les oiseaux de mauvais augure. Ce que je peux dire, c'est que ces individus, ces jeunes caïds qui tiennent les points de deal, parce que là, on n'a pas affaire à la crème de la crème, on n'a pas affaire au patron des points de deal, qui eux, en général, d'ailleurs, vivent très loin de l'endroit où ça se passe. On a affaire à la main-d'œuvre qui est sur le terrain, la petite main-d'œuvre qui peut être défaillante. Et surtout, dans l'esprit, moi je l'ai vraiment constaté, puisque j'ai enquêté pendant 3 ans sur ces trafiquants, sur ces narcos, je les ai fait parler longuement, et on sent vraiment, en les écoutant, qu'ils ont deux ennemis, mais qu'il y en a un qui craigne plus que l'autre. En gros, le premier ennemi, ce sont les concurrents, ceux qui veulent récupérer le point de deal. Et là, comme vous l'avez remarqué, à Marseille comme ailleurs, ils n'hésitent pas à sortir de la Kalachnikov et à tuer, et même plus que ça, je veux dire, à faire mal, à blesser, à torturer, etc. Il n'y a aucun problème. Et puis de l'autre côté, la police, qu'a priori, je suis désolé de le dire, a priori, ils craignent moins que l'ennemi en question, parce que la police n'est pas censée donner la mort à tout bout de champ comme ça, donc ils craignent moins cet ennemi, ce qu'ils considèrent comme un ennemi et non pas comme le bras armé de la République. Ils le craignent moins, mais là, on franchit encore un cap, parce que si vous voulez, que les policiers se prennent dans les quartiers des cailloux, des boîtes de conserve, des tomates congelées, tout ce que vous voulez, ça fait 20 ans que ça dure, hein, c'est pas nouveau. Mais là,
des effectivement, armes de guerre, c'est...
on franchit un petit... c'est-à-dire l'arme de guerre, tout d'un coup, la Kalachnikov qui s'est répandue, est utilisée pour tirer en direction des policiers de la BAC, et donc c'est vraiment à l'image de cette culture de l'hyperviolence qui s'est répandue et de ce néo-banditisme qui est extrêmement impulsif, parce que a priori, quand vous réfléchissez bien, si vous êtes voyou et que vous tenez à ce que les clients viennent sur votre point de deal, c'est contre-productif de tirer sur la police, parce que ça va attirer la police, comme vient de dire la préfète, elle va y aller tous les jours.
Les policiers disent que c'est de la conséquence de la pression qu'ils exercent sur les trafiquants. En fait, on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est sans fin. C'est quoi, d'après vous, la solution, s'il y en a une?
Si vous voulez, vous avez deux possibilités. Ça a été fait pendant très longtemps. On a laissé faire, on a laissé prospérer au nom d'une espèce de pseudo-ordre social. On a laissé les points de deal, on va dire, se développer, s'installer, à tel point que maintenant, ils sont installés comme ça sur tout le territoire français. Donc on peut... Voilà, ça a été une option qui a été privilégiée pour éviter de faire des vagues, etc. pendant des années. Maintenant, il y a l'autre option qui consiste à dire que l'économie souterraine de la drogue relève du crime et que donc il faut la combattre. Et là, vous n'avez pas tellement le choix. Simplement, Simplement, je crois que ça a été dit lors du déplacement du président de la République à Marseille récemment. Bah, il faut des hommes, il faut du monde, il faut armer la police judiciaire, il faut faire du renseignement, et surtout, je crois qu'il faut que, et je pense que c'est plutôt en bonne voie sur Marseille actuellement, d'après les échos que je peux avoir, il faut que les policiers travaillent en bonne entente avec les magistrats.
Merci.
C'est-à-dire que les policiers se sentent pas, voilà, retenus. Par les juges, mais qui puissent faire un travail administratif.
Merci,
on va
beaucoup.
Dire, pour infiltrer ces bandes.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin, je suis désolée, on est pressé par le temps. Je rappelle votre livre, Les Narcos Français brisent l'Omerta, paru aux éditions Albin Michel. Merci.
La pause est dans quelques secondes, les auditeurs.